Et avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Marie Cazadebey.
Bienvenue à tous, bonjour, c'est à vous maintenant de prendre la parole sur RFI, appel sur l'actualité. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h temps universel pour répondre à vos questions et lancer notre débat du jour. Ce matin sur les enjeux du procès d'Ahmad El Faqi devant la Cour pénale internationale, le djihadiste malien comparé pour destruction de patrimoine à Tombouctou. C'est le premier procès d'un haut responsable des crimes commis dans le nord du Mali pendant l'occupation en 2012. Dites-nous ce que vous attendez de ce procès, vous pouvez encore nous appeler pour participer au 33 9 693 693 70. Nous laissez vos messages à appelavecuns.actu@rfi.fr ou bien sûr sur les réseaux sociaux, les pages Facebook et Twitter de l'émission. Avant cela, nos journalistes et nos experts répondent à vos questions sur l'actualité. Ce matin, sur les escadrons de la mort au Pérou, sur la politique espagnole, sur l'accès à Internet en Afrique, mais d'abord sur le Burkini. Bonjour Khalilou.
Oui, bonjour Marie, bonjour à tous les auditeurs.
Vous nous appelez de Cotonou, au Bénin. Vous vous interrogez sur ce fameux costume de bain. On vous écoute.
Oui, plusieurs maires en France ont décidé d'interdire la burkini sur les plages. Alors, je voudrais savoir quelles sont les raisons de cette interdiction et pourquoi que d'autres tenues, comme les combinaisons de plongée, sont-ils autorisées, contrairement à la burkini, alors qu'ils couvrent intégralement tout le corps aussi.
Alors, le burkini, Khalilou, on rappelle en juste qu'il s'agit d'un costume de bain qui couvre tout le corps, y compris la tête. Le mot est un mélange de burqa et de bikini. Et cela fait maintenant quelques semaines qu'il fait polémique en France. Bonjour Pierre-Olivier.
Bonjour.
Journaliste au service France de RFI, une trentaine de maires ont désormais interdit le burkini sur leur plage depuis le début du mois de juillet. Celui de Cannes, dans le sud-est de la France, a été le premier. Comment ces maires expliquent-ils la prise de cet arrêté ?
Alors déjà, ce qui est important de préciser, c'est que le burkini en soi n'est jamais cité directement dans les arrêtés qui sont pris par les maires. En fait, il est désigné, il est sous-entendu par une autre expression, je vous la lis, tenue de plage manifestant d'une manière ostentatoire une appartenance religieuse. Alors voilà, en partant de ce postulat de départ, plusieurs raisons découlent pour interdire le burkini sur les plages. Certaines communes estiment que c'est pour éviter des troubles à l'ordre public. Pour certains maires, c'est un signe religieux ostentatoire et dans le contexte actuel où des lieux de culte sont la cible d'attaques, eh bien, il faut avant tout prévenir des attroupements, des échauffourées qui pourraient avoir lieu, y compris sur les plages entre communautés. Certains maires, vous l'aurez compris, se réfugient donc derrière l'état d'urgence dans lequel la France est encore en ce moment. Et puis, il y a d'autres communes pour qui, eh bien, le burkini est une atteinte aux bonnes mœurs. En effet, sur la plage, les maires estiment qu'il faut avoir une tenue correcte, adéquate pour se baigner et respecter les autres usagers. Alors il y a tout un débat sur qu'est-ce qu'une tenue correcte sur la plage. Mais en France, en tout cas d'un point de vue législatif, il y a seules deux choses qui sont strictement interdites sur la plage. C'est l'exhibitionnisme ou les actes sexuels pour atteinte à la pudeur, mais rien d'autre. En tout cas d'un point de vue législatif, il n'est pas fait allusion à des vêtements de bain ou ce genre de choses. Et puis, il y a une dernière raison pour expliquer ces interdictions qui est évoquée par les mairies. Eh bien, c'est des raisons d'hygiène et de sécurité. L'hygiène d'abord, car on estime que, comme dans certaines piscines où les maillots de bain longs sont interdits, se baigner habillé, y compris dans la mer, peut être plus sale ou en tout cas apporter plus de microbes qu'en en maillot de bain normal. Et puis, il y a aussi une raison de sécurité, puisque en cas de noyade, eh bien, certains maires estiment que pour les maîtres nageurs, ce serait plus difficile de sauver quelqu'un qui est en burkini, puisqu'il y a plus de poids avec le vêtement qu'avec un simple maillot de bain. Alors, pour l'instant, il y a à peine une dizaine de personnes qui ont été verbalisées. Et sachez qu'une personne contrevenante est d'abord prévenue, et puis si elle ne part pas de la plage ou ne se change pas, elle a ensuite une amende de 38 euros.
Alors Khalilou, s'interroger, le burkini couvre tout le corps, y compris la tête. Les combinaisons de plongée, ben, c'est un peu la même chose. Et donc pourquoi ces combinaisons de plongée, par exemple, ne sont pas interdites ?
Alors juste précision, vous l'aurez compris, le burkini pour ces mères a quand même une connotation très religieuse. Pour eux, burkini égale symbole religieux. D'ailleurs, à l'intérieur du mot burkini, on reconnaît le mot burqa et burkini. Donc il fait allusion à l'islam. Certains mères voient donc, je cite, un signe d'allégeance à des mouvements terroristes qui nous font la guerre et à l'extrémisme islamiste. Donc voilà, ça vous donne un peu le contexte dans lequel interviennent ces interdictions. Alors, Concernant la combinaison de plongée, effectivement, même s'il y a une ressemblance physique, puisque elle aussi couvre tous les corps, on est très loin dans la signification et la représentation mentale du burkini, puisque la combinaison, c'est un vêtement de plongée qui couvre le corps, certes, mais qui sert avant tout à ne pas avoir froid, qui est associé au sport, au plaisir. Donc, on est très, très loin de la religion. Et puis, la matière n'est pas tout à fait la même. La combinaison est en néoprène, elle tient chaud, alors que le maillot de bain et le burkini est en élastane et donc beaucoup plus léger. Alors, il est rare de voir des personnes s'allonger sur la plage en combinaison en France.
On conclut rapidement. Pierre-Olivier, est-ce que la décision d'interdire le burkini est compatible avec la laïcité ?
Alors, la laïcité s'applique en France aux institutions et non aux individus. Alors, il y a une exception, c'est l'école publique, dans laquelle même les individus doivent s'abstenir de porter tout signe religieux. C'est depuis 2004. Vous l'aurez compris, les institutions doivent être laïques, mais pas forcément les individus. Or, la plage est un espace public, elle est en dehors des institutions. La loi interdit le voile partout en France. Depuis 2010, c'était les débats sur la burqa, mais elle n'interdit rien d'autre comme forme vestimentaire. A priori, ces décisions ne s'inscrivent donc pas dans le cadre juridique et laïque français, Marie.
Merci Pierre-Olivier d'avoir répondu aux questions donc sur le burkini de Kalilou à Cotonou, au Bénin. On accueille maintenant David qui nous appelle de Brazzaville au Congo. Bonjour David.
Bonjour Marie Casadebé, bonjour à tous les éditeurs de RFI.
David, vous avez des questions sur une affaire qui se passe au Pérou.
Exactement. Les policiers péruviens sont soupçonnés de faire partie des escadrons de la mort. D'où viennent ces soupçons? Quelles sont les preuves qui existent contre ces policiers? Est-ce qu'une enquête doit être ouverte? Si oui, a-t-elle des chances d'aboutir? Cette affaire a-t-elle suscité des réactions de la communauté internationale, notamment des ONG qui militent pour la protection des droits de l'homme?
David, c'est Margot Wartel du service international de RFI qui va vous répondre. Bonjour Margot.
Bonjour.
Les faits remontent à quelques années, hein, mais ils sont sortis récemment dans la presse péruvienne et donc au grand jour. Avant toute chose, de quels faits parlons-nous exactement au Pérou ?
Oui, alors une centaine de policiers nationaux sont soupçonnés d'avoir assassiné au moins 27 personnes entre 2011 et 2015. C'est le journal La Repubblica qui a le premier mené une enquête approfondie et désormais le ministre de l'Intérieur a reconnu les faits. Il a désigné une commission d'enquête et l'inspection de la police nationale est également en charge de l'affaire. Alors, les faits sont un peu complexes. En fait, grâce à des informateurs, les policiers auraient été au courant de l'imminence de délits comme des vols ou des braquages. Ils se rendent donc sur les lieux pour intervenir et là, alors qu'ils auraient pu l'éviter, ils tirent sur les délinquants. Or, l'utilisation de la force n'est pas nécessaire. Souvent, il s'agit de personnes désarmées ou à terre et les policiers racontent après coup que les victimes étaient très violentes et qu'ils n'avaient donc pas le choix. Encore pire, dans certains cas, ce seraient les policiers eux-mêmes qui auraient incité les personnes à se rendre sur les lieux en faisant circuler par exemple de fausses informations. Le scandale est là, les opérations policières seraient simulées de simples occasions pour tuer arbitrairement les citoyens péruviens.
Alors comment cette affaire est apparue au grand jour? Pour revenir à la question de David, quel genre de preuves existe-t-il contre ces policiers?
Alors le premier à avoir dénoncé l'existence d'un commando, c'est un policier lui-même, le commandant Franco Moreno Panta. Son propre frère est mort dans l'une de ses opérations alors qu'il ne constituait a priori pas un danger. Du coup, une enquête a été ouverte, elle montrait que les officiers avaient le soutien de certains de leurs supérieurs. Mais cette première tentative d'enquête a été rapidement enterrée.
Alors qu'est-ce qui a permis de relancer l'affaire ?
Eh bien une émission de télévision, elle s'appelle Le Quatrième Pouvoir et lors de l'un de ses programmes, un témoin a parlé. Il affirme avoir été payé pour inciter de petits délinquants à commettre des délits apparemment très faciles. À 5 reprises, le scénario se serait produit. Et le plus grave, c'est que tout cela se serait fait sous les ordres d'un haut gradé, le commando Enrique Prado Ravines, qui lui se dit est complètement innocent. Une deuxième enquête a donc depuis été ouverte. A priori, elle a plus de chances d'aboutir que la première. L'affaire étant depuis devenue une affaire d'État, le ministre péruvien de l'Intérieur a ainsi déclaré dans les médias qu'un escadron de la mort a bien existé entre 2011 et 2015, en évoquant de nombreuses preuves. Et des agents impliqués dans une des affaires ont été placés en détention préventive. Reste à savoir maintenant combien de temps l'enquête va prendre.
Notre auditeur de Brazzaville s'interrogeait aussi sur les réactions de la communauté internationale. Est-ce qu'il y en a eu ?
Alors pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de réactions internationales. De grands médias étrangers en ont parlé, mais ni du côté des gouvernements, ni du côté des ONG, il n'y a eu de réaction à chaud.
Merci Margot Wartel du service international de RFI. Vos réponses aux questions de David à Brazzaville sont à retrouver en vidéo sur notre page Facebook. Facebook, donc appel sur l'actualité. Vous retrouverez aussi la réponse en vidéo de Pierre-Olivier tout à l'heure sur le burkini. Une nouvelle question à 8h20 en temps universel. Elle nous est posée par Aboudé, un auditeur d'Abidjan que l'on a du mal à contacter. Il s'intéresse à la politique espagnole. Il nous dit: en Espagne, le Parti populaire a entamé mercredi des négociations avec le Parti libéral Ciudadanos pour former un gouvernement. Quelles sont les conditions imposées par Ciudadanos pour soutenir le PP? Ce soutien risque-t-il d'être insuffisant pour que Mariano Rajoy soit investi? On en parle tout de suite avec Mathieu Petithomme, maître de conférence à l'université de Besançon, c'est dans l'Est de la France, spécialiste de l'Espagne. Bonjour Monsieur Petithomme.
Bonjour.
Alors, ça fait maintenant presque 8 mois que l'Espagne se cherche un gouvernement. On rappelle que les Espagnols ont même dû revoter en juillet après des premières législatives qui n'avaient pas réussi à dégager de majorité claire. Pour tenter d'être investi, le parti populaire du Premier ministre sortant, Mariano Rajoy, a entamé des négociations avec les centristes de Ciudadanos. Quels sont les enjeux de cet accord? Que réclame Ciudadanos pour donner son soutien au PP?
Alors, Ciudadanos essaye d'incarner un parti libéral, centriste, un petit peu comme au moment de la transition, et met en avant la nécessité de pactes politiques. Alors, il a mis notamment en avant plusieurs questions. Le fait de ne plus de suspendre les élites mises en cause pour les questions de corruption, de remettre en cause l'immunité parlementaire des élus, et aussi d'ouvrir potentiellement une commission parlementaire sur les cas de corruption mettent en cause le Parti populaire au pouvoir. Donc c'est un élément qui va être difficile à négocier. Tout cela pour mettre en avant l'idée d'avoir une nouvelle démocratie plus irréprochable et un vrai pacte anti-corruption.
Alors ces exigences, elles font vraiment écho aux affaires qui ont touché dernièrement le PP, le Parti populaire.
Voilà, elles font écho à ces affaires, d'autant plus que normalement, au mois d'octobre, il va y avoir 2 autres affaires dans lesquelles le PP est mis en cause avec l'ouverture de procès en justice. C'est pour ça que la corruption est un enjeu central. Mais au-delà de ça, il y a 2 autres éléments. Une réforme de la loi électorale avec plus de proportionnalité et aussi un contrat unique que d'ailleurs le PP a d'ores et déjà refusé. Pour autant, sur ces points, des accords semblent toutefois possibles.
Ça veut dire que le PP peut maintenant compter sur le soutien de Ciudadanos?
Alors évidemment, ils vont négocier toute la semaine. Il y a d'autres mesures. Il y a plus de 100 mesures que Citoyen a proposées, mais il est bien conscient que ça reste un parti secondaire, donc il ne va pas imposer l'ensemble de ces mesures. Mais il est assez probable qu'ils trouvent un accord. Toutefois, même s'ils trouvent un accord pour l'investiture de Mariano Rajoy, celui-ci pourra peut-être compter aussi sur l'autre parti Coalition Canarie, mais même avec ses 3 soutiens, il n'aura que 170 députés, et donc il lui manquerait encore 6 votes lors du premier vote d'investiture ou 11 abstentions lors du second vote, c'est-à-dire que ce ne sera pas nécessaire malgré tout.
Alors vers qui maintenant peut se tourner Mariano Rajoy pour obtenir suffisamment de soutien pour investir un gouvernement?
Oui, alors tout d'abord je voulais dire, ce ne sera pas suffisant, pardon, j'ai dit avant non pas nécessaire, ce ne sera pas suffisant, le soutien de Citoyens et de Coalition Canaries. Alors vers qui peut-il se tourner? Là est la question. On a vu récemment que en fait des députés catalans, lors du vote pour l'investiture de la présidente du Parlement, qui avait lieu à bulletin secret, ont en fait voté indirectement pour Mariano Rajoy. Donc ceci est peut-être possible, mais il est très improbable que ouvertement des partis nationalistes catalans soutiennent directement Mariano Rajoy. C'est pourquoi en fait la situation politique reste très bloquée et très incertaine, parce que à gauche, Pedro Sanchez n'a pas non plus de majorité. Donc personne n'a de majorité et en fait la situation demeure très incertaine. Ce qui est sûr, c'est que si dans un mois il n'y a pas d'investiture, il y aura de nouvelles élections qui auront lieu d'autant plus le 25 décembre, le jour de Noël.
Alors vous qui connaissez bien la situation, qui l'a suivi de près, est-ce que vous pensez que l'Espagne va devoir retourner aux urnes?
Alors,
quel pari vous pourriez faire?
Alors, le Parti socialiste, en fait, aujourd'hui, sa position est de dire « je vais voter non à Mariano Rajoy, tant lors du premier vote d'investiture que du second ». Cette position, il tend à la défendre parce que, évidemment, à sa gauche, il y a Podemos qui met en cause le fait que Pedro Sanchez pourrait faciliter d'une certaine manière l'investiture de Mariano Rajoy. Donc, autrement dit, le Parti socialiste, aujourd'hui, il est entre 2 eaux. Il est très difficile pour lui de ne pas s'abstenir et de permettre l'investiture, puisqu'en fait, il a perdu deux fois les élections, donc ça serait vu comme quand même assez antidémocratique. Mais d'autre part, s'il le fait, eh bien, il va être dépassé sur sa gauche par Podemos. C'est pourquoi, à mon sens, même si je pense que ça serait un scénario assez catastrophique, celui des troisièmes élections semble assez probable. Hein, il semble assez probable d'aller vers les troisièmes élections, même si, peut-être qu'on peut aussi avoir un gouvernement en minorité du Parti populaire avec l'abstention du Parti socialiste. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la position officielle du Parti socialiste.
On aura sûrement l'occasion de vous réinterroger alors sur ce sujet. Merci Mathieu Petithomme d'avoir répondu aux questions d'Aboudé à Abidjan, qui nous a posé donc ces questions sur la situation politique en Espagne sur notre adresse mail à appel avec un S, point, actualité@rfi.fr. Une dernière question, elle nous est posée par Osni qui nous appelle de Lausanne. Ensuite, bonjour Osni.
Bonjour Marie, bonjour aux auditeurs de RFI.
Alors vous vous intéressez aussi à l'accès à Internet sur le continent africain?
Tout à fait. Une récente étude de l'UIT a montré que 75% des personnes en Afrique et dans les pays du Sud en général n'ont pas accès à Internet. C'est dans ce contexte que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, vient d'envisager un projet de connecter tous les Africains à cet outil qu'est Internet. Quelle serait la contrepartie de ce projet du patron de Facebook? Quelle a été la réaction et la position des autorités des pays concernés, africains et pays du Sud en général? Et quel pourrait être l'impact de ce projet sur les autres géants de l'Internet, tels que Google, Yahoo, Twitter, etc.?
Osni, on va en parler avec Tirthankar Chanda du service Internet de RFI. Bonjour Tirthankar.
Bonjour Marie, bonjour Osni.
Alors Osni le disait, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a lancé en 2013 une initiative pour permettre l'accès à Internet gratuit dans les pays émergents. Et il se pose la question des contreparties à cet accès gratuit.
C'est une excellente question Marie et Osni. Comme la question le suggère, Osni, cet accès n'est pas réellement gratuit. Pardon. Ce n'est que normal pour une entreprise à but lucratif, ce qui est le cas de Facebook, comme a reproché à ce mastodonte du web qui a fêté en 2014 ses 10 ans d'existence avec un bilan flatteur de 1,12 milliard d'utilisateurs dans le monde, qu'il veuille augmenter son nombre d'utilisateurs. Ce qui est sûr, ce n'est pas sur le continent américain que l'entreprise californienne va conquérir son next billion, le prochain milliard d'abonnés, car le réseau social est en nette perte de vitesse chez les adolescents américains. D'où la nécessité de trouver des relais sur les autres continents, notamment en Afrique, où Facebook progresse à très grande vitesse.
Et l'autre contrepartie, évidemment, c'est la publicité.
Bien sûr. Pour une entreprise comme Facebook qui se rémunère sur la publicité, le marché africain, où il y a aujourd'hui un véritable pouvoir d'achat, cela constitue un énorme potentiel. Sur un marché comme celui du Nigeria, où Facebook gratuit vient de s'installer, la gratuité est plutôt rentable. Enfin, gratuité une fois ne veut pas dire gratuité toujours. Cela implique un site spécialisé qui s'appuie sur des indiscrétions d'un haut cadre de Facebook chargé des partenariats pour le Moyen-Orient et l'Afrique. La moitié des utilisateurs de la plateforme d'accès gratuit à Internet opéreraient pour un accès payant dans les 30 jours qui suivent leur connexion, ce qui explique que les fournisseurs de services en télécommunications qui ne sont pas de bons samaritains participent à l'initiative de Facebook.
Les réactions des autorités africaines à cette initiative, plutôt positive ou pas?
Ben, écoutez, en général, les autorités voient cette initiative d'un très bon œil parce que ça les dispense de faire des investissements lourds en infrastructure que nécessitent ces services de télécommunication. Il arrive que les relations avec les autorités se dégradent, comme cela s'est passé en Inde ou en Égypte, où l'opération Free Basics a été suspendue en Inde. Free Basics, c'est l'Internet gratuit lancé par Facebook, a été suspendu sous la pression de l'opinion publique. Pour les Indiens, la gratuité d'accès à Internet pose un problème éthique de neutralité.
Merci Tirthankar Chanda d'avoir été avec nous pour répondre aux questions d'Osni, donc à Lausanne en Suisse, sur peut-être l'avenir d'un Internet gratuit en Afrique. En tout cas, on souhaite évidemment garder ce lien Internet donc avec nos auditeurs. Ils sont très nombreux à réagir sur les pages Facebook et Twitter de l'émission. Et pour participer notamment à notre débat tout à l'heure sur le procès d'un djihadiste malien pour la destruction de patrimoine à Tombouctou en 2012. Dites-nous ce que vous attendez de ce procès. On se retrouve juste après le journal Afrique.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.
Priorité santé.